Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir à tous. Très heureux de débuter cette nouvelle semaine de Soir Info en votre compagnie de 22h30 à minuit sans aucune interruption avec Jean-Christophe Couvi ce soir autour de la table, secrétaire national Unité. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou sur le gong. Je dis Jean-Christophe Couvi parce que Jean-Sébastien Ferjou, pardon, est en train d'arriver au dernier moment comme à son habitude, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Journaliste, directeur de la publication Atlantico, bien sûr. Alexandre Devecchio de la rédaction, bon chef soir. Du JDD. Impeccable.
Non,
impeccable.
Du Figaro.
Qu'est-ce que j'ai du Figaro. Décidément, mais c'est arrivé de Ferjou, là, de monsieur Ferjou, qui m'a complètement chamboulé, vous voyez.
Pas encore, hein.
Non, mais ça viendra peut-être. Mais vous êtes très, très bien là où vous êtes au Figaro. Excellent quotidien, n'est-ce pas?
Et le JDD, c'est très bien aussi.
Et c'est très bien, tout est très bien. Merci beaucoup, Amaury Bucco, d'être là pour les questions de police-justice. Bien sûr, qu'on ira beaucoup plus loin sur cette terrible affaire qui concerne ce jeune adolescent de 15 ans tué, Mathis, par un autre adolescent d'une quinzaine d'années afghan dans cette ville de Châteauroux ces dernières heures. On y consacrera une très longue partie de cette émission avec Karima Brik, bien sûr, de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. François Pupponi est avec nous ce soir. Bonsoir, cher François, ancien député. On va revenir aussi sur ces images de mobilisation qui ont secoué tour à tour Sciences Po, puis la Sorbonne aujourd'hui autour d'un mouvement pro-palestinien ou anti-israélien, voire antisémite. Ça, c'est une question qu'on pourra se poser tous ensemble. Mais avant cela, je voudrais vous montrer l'une des images qui, personnellement, c'est l'image qui m'a le plus marqué ce week-end et que je trouve particulièrement inquiétante. Je voudrais la soumettre à nos téléspectateurs et à vous autour de la table. Ces images donc impressionnantes, très inquiétantes, même tournées à Hambourg, en Allemagne. Ce week-end, près de 1000 personnes se sont rassemblées à l'appel d'une organisation qui s'appelle Muslim Interactive. Leur revendication, notamment, établir un califat en Allemagne, un califat fondé sur la charia. Des images particulièrement inquiétantes, je le disais. Je voudrais que vous voyiez et que vous entendiez cette séquence aujourd'hui, donc plutôt hier ou avant-hier dans le nord de l'Allemagne. Et pour nous éclairer sur cette mobilisation et l'ampleur qu'elle peut avoir, Alexandre Delval est avec nous. Merci beaucoup d'être présent en vidéo, en direct, pour nous éclairer. Cher Alexandre Delval, politologue, je le rappelle, géopolitologue, je le rappelle, auteur de ce dernier ouvrage, Vers un choc global, coécrit avec Jacques Sopelsa, La mondialisation dangereuse, nouvelle édition, revue et augmentée aux éditions L'Artilleur. Que voici. Alexandre Delval, on va les revoir, ces images, je le disais, sont très impressionnantes, elles peuvent choquer beaucoup d'entre nous. D'abord, très factuellement, qui sont ces gens? Quelle est cette organisation Muslim Interactive? Qui se cache derrière elle?
Alors, cette organisation a été créée dans les années 2019-2020. Elle a déjà organisé une manifestation très radicale qui avait beaucoup impressionné la police et les services antiterroristes et aussi les hommes politiques et les femmes politiques en Allemagne. En 2021, une manifestation avec des gens habillés en noir qui était extrêmement belliqueux, en tout cas en parole, avec un côté extrêmement antisémite, un islamisme très très axé dans l'anti-judaïsme sous couvert d'antisionisme, mais avec des slogans ouvertement anti-juifs, en faveur du califat déjà, en faveur de la Palestine. Et c'est pas pour rien, puisque Muslim Interactive vient du groupe Hizb ut-Tahrir, donc la libération, sous-entendu, puisque c'est un groupe palestino-jordanien. Ce groupe a toujours voulu rétablir un califat et instrumentaliser la cause palestinienne, non pas pour défendre le nationalisme palestinien, mais islamiser la cause palestinienne pour légitimer une sorte de pan-islamisme. Donc c'est très proche de l'idéologie du Hamas. Mais pour la petite histoire, ce mouvement qui a pignon sur rue dans plusieurs pays européens a été interdit par le Hamas à Gaza parce qu'il était considéré trop radical d'un point de vue idéologique. C'est pour vous dire le genre d'organisation qu'en Europe, on accepte. Petite histoire, petite anecdote. En 1998, quand j'étais fonctionnaire, j'avais rencontré un collègue du renseignement anglais qui s'était vanté en 1900, donc à la fin des années 90, il s'était vanté que le Hizb ut-Tahrir et plein d'autres mouvements dont il nous avait donné la liste étaient accueillis en toute liberté en Angleterre. Ça, c'est l'Occident. En Occident, il faut savoir que nous accueillons des mouvements que l'Égypte, que le Hamas, que Gaza, que l'Arabie saoudite et même le Qatar interdisent. C'est-à-dire que c'est une situation assez ubuesque. Et pourtant, Hambourg, c'est quand même une capitale de l'islamisme connue depuis très longtemps, puisqu'en 2001, vous le savez, que Hambourg était le lieu où se sont organisées, au niveau des réseaux, les 19 personnes du commando du 11 septembre 2001.
Qu'on comprenne bien. Pardon de vous couper, Alexandre Delval. Juste une question. Pardon de vous interrompre vraiment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, de ce que vous me décrivez, donc plus radical que le Hamas qui a demandé à le faire interdire. Donc on a l'impression qu'on marche sur la tête, que c'est un comble. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 1000 personnes qui ont manifesté là, c'est 1000 terroristes en puissance?
Non, justement non. Là où le Hizb ut-Tahrir est très malin, c'est qu'il prétend ne pas être djihadiste sur le territoire européen. Il prétend que le djihad a plusieurs formes et qu'en Europe, on va privilégier le djihad du verbe, d'où leur doctrine comme les frères musulmans. D'ailleurs, ils sont une scission des frères musulmans, la lutte contre l'islamophobie. Mais pour ne pas être sous le coup de la loi, ils ont l'intelligence de systématiquement dire qu'ils n'appellent pas au djihad sur le territoire européen. Mmh. Ils le djihad, bien sûr, partout dans le monde musulman, puisqu'il ne faut pas oublier que l'objectif numéro un des mouvements islamistes, c'est lutter contre les apostats et contre les pays musulmans qui ne sont pas assez musulmans. Donc, dans une certaine cohérence idéologique par rapport à d'autres mouvements islamistes, ils estiment que le djihad fi sabilillah, donc l'impératif du djihad sacré, donc ça veut dire effort, le djihad, ce n'est pas forcément violent, ils disent qu'en Europe, on va faire un effort verbal et doctrinale et de propagande, alors que dans des pays apostats, et ça c'est les vrais ennemis, le premier ennemi avant l'infidèle, c'est le mauvais musulman. Dans les pays musulmans, on est pour le djihad violent. En Europe, on est pour le djihad du verbe. Et d'où leur slogan, le califat, la lutte contre l'islamophobie. Alors qu'en fait, Hambourg a donné des concessions incroyables à l'islamisme politique ces dernières années, l'enseignement de l'islam dans les écoles publiques. Beaucoup de concessions ont été faites d'un point de vue de l'état civil, un peu comme en Angleterre. Et pourtant, ce n'est jamais suffisant. Ils prétendent, ce mouvement, que Hambourg et l'Allemagne seraient complètement hostiles aux musulmans, sous prétexte que les médias n'auraient pas censuré les gens qui sont pour les caricatures. Ce mouvement s'est beaucoup impliqué aussi au Danemark, dans la lutte contre les caricaturistes et aussi, bien sûr, contre Charlie Hebdo et compagnie.
Le signe de ces images, ce qu'elles nous disent, c'est que l'offensive islamiste n'est plus cachée sur le territoire européen. Ça, c'est assez évident ce que je suis en train de dire. En tout cas, ce sont des images que nous n'aurions pas vues il y a peut-être encore quelques années. Vous avez certainement, Alexandre Delval, je voudrais le montrer à nos téléspectateurs, vu et entendu les mots du ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Il a republié aujourd'hui une vidéo d'il y a 7 ans avec ce commentaire assez lapidaire, vous le voyez, je vous l'avais dit. Voilà ce que le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis disait il y a 7 années.
Absolument, mais...
Écoutez-le, Alexandre Delval, et vous réagissez.
Pardon.
Et laissez-moi dire ceci en anglais pour que vous compreniez ce que je dis.
J'ai la traduction.
Non, je sais que vous avez la traduction, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez bien. Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance.
Alexandre Delval, tout est dit ou presque en 20 secondes. En gros, si je résume, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années que vous avez des responsables sécuritaires de pays du Moyen-Orient, de pays arabes, qui alertent les Occidentaux, qui nous alertent pour nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites à laisser agir ces groupes islamistes que nous avons nous-mêmes interdits ?»
Alors, ça fait plus que 20 ans, hein. Ça fait à peu près 40 ans.
D'accord.
Et quand j'étais jeune fonctionnaire, déjà que j'avais 28, 29 ans, dans les années 90, il y avait déjà cette tolérance. Londres était le Londonistan où on pouvait même appeler à la mort du Premier ministre. Hein. On pouvait, au nom de la liberté d'expression, rappelez-vous, Londres a mis 13 ans avant d'accepter d'extrader vers la France les auteurs des attentats terroristes des années 90 avec l'époque de Kelkal, etc. Donc non, ça fait beaucoup plus de temps que ça. Ça fait au moins 40 ans que tous les pays européens, sans exception, ont accueilli des djihadistes. Par exemple, El Souri, le grand djihadiste d'Al-Qaïda qui appelle, vous savez, le fameux appel au djihad mondial, il s'est marié à une Suédoise, il est devenu espagnol, citoyen espagnol. L'homme qui a voulu tuer le roi l'ancien roi du Maroc a créé Radio Islam en Norvège.
Et pourquoi on n'écoute pas les gens qui savent de quoi ils parlent, Alexandre Delval ?
Pardon ?
Pourquoi est-ce que nous n'écoutons pas les gens qui savent de quoi ils parlent ?
Mais parce que je me rappelle, un vieux routier du renseignement me disait, quand j'étais jeune fonctionnaire, il me disait, ça sert à rien de faire du renseignement. Il était très aigri, c'était pourtant un homme gradé. Il me disait, les hommes politiques ne nous écoutent jamais. Et je me rappelle, au SGDN, on faisait des notes sur l'avancée de certains mouvements islamistes dans les années 90. Et on savait déjà qu'il y avait des salafistes, mais aussi des frérots salafistes et d'autres mouvements, des haubandes, etc., qui agissaient de manière légale, avec parfois l'appui d'hommes politiques locaux, et rien n'avait été fait. Ça fait des années que tous les services de renseignement d'Occident alertent, mais les hommes politiques, ils préfèrent la Pax Islamica. Gilles Kepel avait parlé déjà dans les années 90 du Muslim Vote, le vote musulman. Donc il y a les gens qui sont compromis, il y a ceux qui cherchent un électorat, il y a ceux qui sont culpabilisés, qui pensent qu'en gros, Voltaire c'est pour nous, mais les gens qui viennent du monde musulman, ben, c'est pas pour eux, Voltaire. Une sorte de racisme inversé. Pour eux, on va les laisser dans l'obscurantisme, on va même leur offrir de l'obscurantisme. Et c'est pour ça que je dis que le vrai racisme anti-musulman, c'est de ne pas avoir voulu offrir les lumières aux musulmans et aux descendants d'immigrés musulmans que l'on a pourtant bien diffusé auprès des autochtones.
C'est Alexandre...
une forme de racisme parce que c'est la trahison des clercs, c'est la nouvelle trahison des clercs.
Alexandre Delval, je reviens vers vous pour un dernier mot dans une poignée de secondes. Juste un petit tour en plateau avec François Pupponi, que j'ai vu faire quelques mous au moment où Monsieur Delval s'exprimait.
Moi, je partage ce qui est dit. Tout le monde a alerté, tous ceux qui connaissaient un peu, moi j'en ai fait partie, je l'ai dénoncé aussi. Vous dites les politiques, bien sûr que les politiques ont une responsabilité évidente. Ils n'ont pour certains pas voulu voir, d'autres ont assumé complètement de les laisser place. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la passivité ou la complicité ou de ce que j'appelle moi l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on savait et on a laissé faire, on a même par moments favorisé les choses, pensant qu'en acceptant que ces réseaux-là soient présents, ils allaient s'élever intellectuellement et qu'ils allaient nous respecter, ce qui était une erreur historique. Voilà, donc moi ce que je mets en cause, c'est globalement notre pays, tous confondus, qui n'avons pas été capables non seulement d'entendre, et quand on a entendu, on a laissé faire volontairement, sciemment, en faisant un pari sur l'avenir qu'on est en train de perdre.
Et à l'arrivée, une guerre de civilisation, c'est comme ça que vous le décriveriez, Alexandre Delval, on est en plein dedans ?
Oui, mais plus qu'une guerre de civilisation, vous le voyez ce que disait ce monsieur des Émirats, c'est une guerre même aussi entre une façon de voir l'islam comme une religion pure, spirituelle. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas des Émirats, c'est le cas de plus en plus de MBS, vous savez, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, qui fut le disciple de MBZ, son équivalent aux Émirats. Il y a pas mal de pays musulmans qui sont en lutte et qui payent un prix beaucoup plus lourd, un tribut beaucoup plus lourd que nous. Donc, plus qu'une guerre de civilisation, c'est une guerre entre la théocratie totalitaire de l'islamisme et de l'autre côté, un monde musulman qui voudrait faire séparer la politique de la religion, hein, l'église de l'État. Mais en plus, c'est une guerre de religion, bien sûr, quand l'islamisme se positionne comme opposé aux infidèles judéo-chrétiens. Mais une dernière anecdote, nous avons interrogé...
Allez-y, je vous remercie ensuite.
Oui, voilà, nous avons interrogé récemment, enfin il y a un an, le grand imam d'El-Azhar, la plus grande autorité de l'islam sunnite, et M. Ferjou, ici présent, en sait quelque chose, puisque c'était pour Atlantico, et ça nous avait impressionné. Le grand imam d'El-Azhar, qui n'est pas spécialement un doux et un modéré, on a vu ses positions sur Israël, nous a dit « Vous êtes fous d'accueillir les frères musulmans. Chez nous, c'est soit la peine de mort, soit le démembrement, on est resté assez bouche bée quand même d'entendre des propos, soit l'exil définitif. C'est-à-dire qu'il nous a dit que même l'autorité la plus importante de l'islam sunnite considère les frères musulmans qui ont pignon sur rue en Europe comme des gens absolument pas respectables. Et deuxième chose, j'ai montré deux fois à des ministres de l'Intérieur successifs ces 20 dernières années les pages du livre best-seller de M. Kardawi. Vous savez, Kardawi, c'était l'idéologue et le jurisconsulte des frères musulmans. Et j'ai montré les pages dans lesquelles ce livre, en vente libre, en France, même sur Amazon, à la FNAC, ce livre donne les trois raisons pour lesquelles un musulman peut aller tuer un infidèle ou un apostat. Eh bien, ce livre n'a jamais été interdit. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait M. Pouponi, ou plutôt, peut-être qu'on est d'accord sans croire qu'on est d'accord, mais il y a des politiques qui sont des ministres de l'Intérieur. Quand vous leur montrez les photocopies des livres best-seller, parce que le licite et l'illicite de M. Kardawi, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le best-seller des frères musulmans en Europe. C'est l'homme qui a inspiré l'école où on forme les imams à Château-Chinon. Il y a trois raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un dans ce livre, et ce livre n'a été interdit qu'une seule fois par Pasqua pendant un an et demi, et ça a été autorisé dès que M. Pasqua n'était plus ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire depuis 30 ans, un livre parfaitement légal, qui est le livre d'une des grandes organisations du Conseil français du culte musulman, à Château-Chinon, on y forme les imams européens, et bien ce livre est en vente libre, pas besoin de Daesh ou d'Al-Qaïda, il suffit de lire l'orthodoxie, et M. Kardawi, il a inspiré aussi l'ISESCO, c'est une organisation internationale qui est l'UNESCO de l'islam, incroyable. C'est l'équivalent de l'OCI, il est la référence suprême de l'ISESCO.
C'est pas gagné.
Nos hommes politiques ont été complices. On ne peut pas dire le contraire, car c'est factuel.
Merci beaucoup, Alexandre Delval. C'est toujours précieux de vous entendre. Je rappelle que vous êtes co-auteur de ce livre « Vers un choc global, la mondialisation dangereuse », nouvelle édition revue augmentée aux éditions L'Artilleur. C'est assez glaçant de l'entendre également, Alexandre Delval, et de mettre en perspective également ce ministre émirati qu'on a entendu il y a quelques instants, et pour nous rappeler cette séquence d'il y a 7 ans. En fait, Karima et Jean-Sébastien, très vite, et puis on va passer à d'autres thématiques. Personne ne veut voir, n'a voulu entendre ce qui est en train de se passer au nom d'un politiquement correct, d'une bien-pensance très occidentale.
On en parle au passé, mais je pense qu'il faut en parler au présent parce que ces offensives, elles ont cours encore aujourd'hui. Moi, je pense que l'Occident est grugé de l'intérieur par des groupuscules, par des petits groupes radicaux qui veulent se servir de nos lois pour les transformer de l'intérieur grâce à nos lois. Donc, c'est tout le paradoxe de la chose. Et je trouve ça extrêmement glaçant, ce qu'on voit à Hambourg. Et d'ailleurs, avez-vous vu des femmes? Donc, ça donne une idée déjà dans quel genre de monde ces personnes s'imaginent.
Dans le califat, je pense que les femmes n'ont pas une place prépondérante.
Exactement, voilà.
À la maison.
Mais, a priori, oui, donc, à la maison, comme vous dites.
Donc, on voit finalement, effectivement, que ce sont des groupuscules et on voit aussi ces offensives un petit peu partout. Je regardais même au Canada, par exemple, aux États-Unis, on peut regarder, quand on parle de modèle multiculturaliste, on peut penser en France aussi ce qui se passe, le communautarisme, l'entrisme religieux, l'influence aussi un petit peu partout de ces, si vous voulez, certaines personnes, certains groupes qui essaient d'influencer aussi les jeunes. Mais si vous regardez, par exemple, au Canada, hein, c'est des groupuscules qui ont fait en sorte que aujourd'hui, vous pouvez faire votre serment de citoyenneté en niqab. Dans le dernier budget fédéral canadien, on est en train de réfléchir aujourd'hui à faire, par exemple, des hypothèques islamiques. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des offensives et malheureusement, je pense que la plupart des musulmans qui s'installent en Occident veulent vivre à l'occidental et au contraire, c'est absolument rebutant de voir certaines franges radicales, rigoristes et même, voire violentes, qui s'emparent finalement, qui peuvent s'emparer de nos lois pour les changer et faire en sorte que finalement, ça devienne un enfer aussi pour tout le monde.
C'est assez effrayant ce qu'on voit à Hambourg et puis évidemment que ça nous ramène à nous-mêmes et on se dit à quel point une manifestation, un rassemblement comme celui-là pourrait avoir lieu en France, à quel point des gens comme ceux-là sont présents sur notre territoire. Conclusion rapidement, Jean-Sébastien.
Je crois que ce que disait Alexandre Delval est très important. À la limite,
limite, le plus inquiétant n'est pas tant que ces gens-là existent, des radicaux ou des extrémistes, il y en a toujours eu. Le plus inquiétant, c'est la lâcheté politique qu'il y a en face.
C'est ça.
Et il avait raison de rappeler le déni, la volonté de ne pas voir. Vous le disiez aussi, François Pupponi. Et moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il faut une forme de courage. Et Alexandre Delval l'a eu depuis des années pour oser dénoncer ça. Parce que bien souvent, quand vous le disiez, on vous retournait des procès en racisme ou des procès en islamophobie, qui est d'ailleurs un terme qu'on n'aurait jamais dû accepter, puisque bien sûr que les discriminations contre les musulmans sont inacceptables, mais c'est aussi un mot qui a été inventé par les islamistes pour empêcher la critique justement de l'islam ou de l'islamisme comme idéologie politique. Aujourd'hui, malheureusement, la lâcheté, elle est toujours présente. Et alors, je sais que le CNRS nous a expliqué qu'il n'y avait pas de connexion entre l'islamisme et l'extrême gauche. Mais enfin, quand on voit des vidéos entre certains islamistes et le NPA, par exemple, dans lesquelles ils exposent très clairement l'alliance qu'ils peuvent nouer, quand on voit ce qui se passe sur les campus, on va en parler.
Et quand on voit que l'Ayatollah iranien tweet les images qu'il y a à la Sorbonne aujourd'hui et ces derniers jours, on peut se demander, en effet.
Mais effectivement, mais moi, j'attends que le même CNRS qui nous a donc expliqué que l'islam le gauchisme n'existait pas, nous trouve le qualificatif scientifique pour décrire ce qui se passe entre la gauche radicale et les islamistes.
On va parler des images qui ont fait le tour des différents médias aujourd'hui après les blocages à Sciences Po en fin de semaine dernière. Donc la prestigieuse université de la Sorbonne a subi d'autres manifestations aujourd'hui dans un antisémitisme latent et décomplexé. Mais avant qu'on voit ces images et qu'on en fasse un tour de plateau, je voudrais parler de ce mal donc très profond qui est ancré dans une partie de la population. Yvan Attal, l'auteur, le réalisateur, l'acteur, était invité par Frédéric Aziza ce week-end sur Radio J. Il est revenu sur cette fuite en avant, qui a imputé, je vais y arriver, à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise accusée d'entretenir l'antisémitisme ambiant dans ce pays. Écoutez-le.
Et c'est ce qu'il fait Mélenchon.
Mélenchon hein, multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein.
Il n'est pas idiot, enfin il est totalement crétin de faire ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Il est vrillé, il est fou. Il est antisémite.
Bah, c'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir, sa tronche, et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous les, de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui.
Mélenchon.
Hein, l'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà.
Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme.
Ben, depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien?
1000 et quelques pourcents.
Ben voilà, ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi.
Tout le monde, c'est-à-dire?
Ben, dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour. Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. Hein. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, les au Soudan et machin, etc. Ben » non, mais évidemment, évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, on n'importe rien. C'est le même conflit. D'ailleurs, c'est l'antisémitisme.
Gérard Haro, l'ambassadeur Gérard Haro, qui était l'invité il y a quelques semaines ici, il dit « Israël, c'est le juif des nations. »
Ah, ouais, c'est, peut-être.
C'est ce que disait aussi, on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça.
L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des juifs de France, c'est le même. C'est la haine des juifs.
Alexandre Devecchio, c'est très important ce que dit Yvan Attal. Je voulais vraiment qu'on l'entende en longueur, ce qu'il dit sur Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit plus globalement sur cet antisémitisme qui a fait tomber les masques ces derniers mois et qui est à gauche aujourd'hui pour lui.
Il dit plusieurs choses importantes sur le conflit israélo-palestinien en lui-même. Il fait une analyse que je partage en partie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un conflit purement territorial. On a une islamisation du conflit avec l'antisémitisme qui va avec. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français, malheureusement, n'est pas sans rapport. On sait que dans certaines banlieues, depuis longtemps, il y a une partie de la population qui est dans un antisémitisme culturel farouche. Donc, effectivement, le conflit israélo-palestinien apparaît comme un prétexte quand à la gauche. Alors il y a une tradition anticapitaliste à gauche et Israël est vu comme l'État des Juifs, donc l'État capitaliste. Mais il y a surtout là une stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il est lui-même antisémite, mais en tout cas, il va chercher des voix chez les antisémites, à la fois effectivement dans les banlieues avec cet antisémitisme culturel et à la fois dans les universités où là, je ne sais pas si c'est de l'antisémitisme, mais il y a de l'anti-occidentalisme en fait. Et Israël est vu comme la nation symbole de l'Occident et donc par un mélange de culpabilité, de haine de soi, ça se retourne aujourd'hui contre...
Quand vous avez une partie de l'échiquier politique contre qui dit partout, par mons et par vos, si je puis dire, qu'Israël est un État génocidaire, après vous étonnez qu'il y ait des actes antisémites dans ce pays, plus 1000%, plus de 1000% d'augmentation depuis le 7 octobre, Jean-Christophe Couvi.
Oui, une sacrée augmentation parce que... En fait, si vous voulez, on est en train d'utiliser effectivement un conflit qui est quand même loin de la France et qu'on importe et pour monter encore une fois les uns contre les autres, pour choisir des camps. Et c'est vraiment
regardez
un problème.
Regardez ces images encore aujourd'hui, je me permets, hein, pour redire non, mais ces mais images datent d'aujourd'hui, c'est des affrontements entre pro-palestiniens, pro-israéliens et la police au milieu.
Il y a quelques jours, j'étais dans un pays de l'Est, j'étais à Prague et il y a un quartier juif. Et je suis allé voir par curiosité, c'est, je veux dire, le vieux cimetière juif et tout autour, il y a affiché justement les personnes qui ont été kidnappées. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de tension.
Et si on
sent qu'il y a un respect, la dignité, voilà. Et en fait, ici, quand on arrive, on revient en France, on se dit, mais en fait, on est dans une société qui a feu et à sang, qui est énervée, qui est à cran. Et en fait, on nous force à choisir des camps les uns contre les autres. Et encore une fois, on voit bien qu'il y a un moment politique en ce moment, avec une petite musique qui est là pour dire, bah, maintenant, mon coco, choisis ton camp, qu'est-ce que tu veux ? T'es pour ou t'es contre ? Maintenant, on est pour la paix sociale. Et la paix sociale, c'est à un moment donné, savoir faire la différence.
Un dernier extrait d'Yvan Attal, vous réagissez, François. Il ne sait plus pour qui voter. Écoutez-le.
Oui, c'est pesant d'être juif.
Ouais,
ouais. Ça pourrait ne pas l'être.
Ouais.
C'est pas obligatoire que ce soit pesant, mais ça l'est. Mmh. Ça veut dire, c'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est juif, sans que ça lui pèse? Bah, pour l'instant, non. Je sais plus pour qui je dois voter. Je sais plus qui...
D'ailleurs, vous allez voter?
Je sais pas.
Aux européennes?
Je sais pas. Je sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football parce qu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes. Ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même.
Ouais.
Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. C'est quand même fou de ne plus être moi-même tous les jours de ma vie dans mon propre. Mais bien sûr que ça pèse.
Ça pèse.
Mais bien sûr.
Quel constat, incroyable, François Pupponi. Est-ce qu'un juif peut vivre quelque part tranquillement dans ce monde ?
Non, d'abord, c'est pas nouveau. Enfin, le peuple juif porte ça en lui depuis tellement de décennies, pour pas dire de siècles, qu'on pensait que dans des pays...
Regardez encore, ne serait-ce qu'à 7 ce week-end.
On pensait que dans des pays comme la France, les juifs pensaient pouvoir vivre en sécurité en France. Ça fait bien longtemps qu'ils savent qu'ils ne vivent plus en sécurité en France. Combien de jeunes juifs ou de juifs ont été tués dans notre pays parce que juifs ? Dilan Halimi, Ali Perkacher, en passant par Toulouse, la liste est longue. Bon. Et donc là, aujourd'hui, ils constatent qu'en plus, l'opinion a basculé complètement dans une haine antisémite. Parce que...
Enfin, pas l'opinion, quand même.
Enfin, l'opinion. Allez, une part.
C'est important de le rappeler.
Oui, une partie de l'opinion.
Qui est ultra visible.
Et une minorité. Des minorités.
Une partie. Oui, mais
quand vous avez une augmentation de plus de 8% d'actes antisémites.
Non, mais je suis d'accord.
Comme elles sont, quoi.
Entendre tous les jours, comme Yvan Attal l'a dit, la haine d'Israël, voilà, de la mer à la rivière, c'est-à-dire qu'il faut qu'Israël disparaisse, faut que les Juifs s'en aillent.
C'est pas anodin ce qu'il dit, Yvan Attal, parce que dans le métier, maintenant, ça va être très compliqué, on peut l'imaginer, des messages menaçants, si c'était pas déjà le cas. Bon. Enfin, il va devenir une cible, Yvan Attal, là, désormais.
Par contre, ce que je constate, pour être proche de la communauté juive, c'est qu'à un moment, la communauté juive est abasourdie par ce qui se passe depuis 7 octobre, mais qui disent stop, on va plus se laisser faire.
C'est ça.
Et donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on va à l'affrontement. Bon. Parce qu'à un moment, les jeunes juifs, ils n'ont pas envie de se laisser faire. Donc ils disent on va se défendre.
On les comprend. Après, il y a se défendre par les mots, il y a politiquement.
Oui, mais
je voulais juste vous dire, François,
juste vous finir, parce que quand on entend ce qui s'est passé le 8 mars, des femmes qui défendent pour, qui descendent dans la rue pour défendre d'autres mars, se faire traiter de sales juives, de sales putes, de devoir être évacuées par le service d'ordre de la communauté. Ce qu'on entend à Sciences Po. Et à un moment, il y a des gens de la communauté juive qui disent bon, on va pas se laisser faire.
Mais bien sûr, mais on les comprend et on comprend de toute façon évidemment le sentiment qui est exprimé par Yvan Attal, et c'est consternant de voir que finalement nous vivons dans un pays où ça puisse continuer à se développer. Ce que je disais juste, c'est que ne nous tendons pas, les réseaux sociaux ou certaines manifestations nous tendent un miroir déformant. La réalité des sondages, quand même, c'est qu'il y a 80% des Français, et c'est plus ou moins la même proportion aux États-Unis, qui soutiennent plutôt Israël, qui soutiennent plutôt justement les Juifs face à l'antisémitisme.
Vous avez 200 étudiants à
Sciences Po. Non, mais juste pour aller au bout. Il ne s'agit absolument pas de minorer, parce que 20% de la population pris dans l'autre sens, c'est déjà énorme et ça suffit très largement à faire des victimes et à rendre la vie infernale. C'est simplement, souvenons-nous, collectivement, que nous sommes, il y a une majorité silencieuse ou une majorité qui en tout cas s'exprime moins ou se fait moins entendre que d'autres, et que c'est sur cette majorité-là, y compris d'ailleurs chez un certain nombre de musulmans, qu'il faut s'appuyer. Je voyais un sondage qui montrait que la fameuse cause palestinienne qu'agite Jean-Luc Mélenchon, ça n'est que la 19e motivation de vote des Français. Les étudiants, ils nous disent qu'ils sont la jeunesse. La réalité, c'est qu'il y a 10% des moins de 24 ans qui considèrent que c'est une motivation de leur vote.
Il est quasiment 23h.
10%, ils ne sont pas la jeunesse.
Il est quasiment 23h, direction la Sorbonne dans quelques instants. Donc après les blocages à Sciences Po, c'est l'université parisienne qui a été ce lieu de mobilisation aujourd'hui. Peut-on craindre un embrasement à toutes les universités françaises? On va se poser la question. Et puis évidemment, on prendra largement le temps de revenir sur ce nouveau drame. Encore un gamin de 15 ans poignardé à mort par encore un gamin également, lui d'origine afghane. On vous donnera les toutes dernières précisions autour de cette affaire. Restez bien avec nous. Le temps du point actu de Maureen Vidal. A tout de suite, Maureen Vidal.
Fin de la garde à vue de Gérard Depardieu. L'acteur s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. Interrogé sur deux affaires d'agression sexuelle par les enquêteurs, il sera jugé en octobre 2024 pour des faits d'agression sexuelle susceptibles d'avoir été commis en 2021 sur deux femmes lors d'un tournage. La SNCF a présenté son nouveau modèle de TGV. Le TGVM Train du Futur, attendu pour le second semestre 2025. Vêtu de blanc presque intégralement, place à la sobriété. Le groupe ferroviaire public a déboursé 3,5 milliards d'euros pour acheter 115 rames de ce train, offrant plus de sièges et moins gourmands en énergie que les TGV actuels. Enfin, une trêve de 40 jours proposée au Hamas par Israël, associée à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens. Il s'agit d'une proposition très généreuse, selon le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. De son côté, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, appelle le Hamas à accepter cette offre. Plus tôt dans la journée, les ministres des Affaires étrangères arabes et européens se sont réunis à Riyad, en Arabie saoudite.
Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. Après les mobilisations qui ont secoué Sciences Po Paris la semaine dernière, c'est au tour de la Sorbonne d'être bloquée par des étudiants pro-Palestine. La prestigieuse université de Paris donc a annulé les cours et les examens qui étaient prévus aujourd'hui suite à ce blocage organisé par plusieurs dizaines d'étudiants, avec notamment cet immense drapeau palestinien brandi devant la cour de la Sorbonne. La police est intervenue au sein de l'établissement pour évacuer les militants. Regardez une séquence tournée au cœur de l'après-midi. Voilà à quoi on a pu assister notamment aujourd'hui. On reverra ces images d'affrontements entre des étudiants pro-israéliens, pro-palestiniens. Écoutez le délégué national du syndicat UNI qui fustige ce rassemblement.
Ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver à la Sorbonne, c'est des manifestants pas seulement pro-palestiniens, mais également pro-Hamas, qui ont d'abord occupé et bloqué l'école et qui maintenant même sont en train de faire une manifestation devant après avoir été évacués. Ça, c'est dû au laxisme de Sylvie Retailleau, qui, au lieu de condamner les agissements de Sciences Po Paris, a préféré les féliciter la direction lorsqu'elle a décidé de ne pas sanctionner les manifestants pro-palestiniens. Et donc, on se retrouve dans une situation où ces manifestants pro-palestiniens se croient tout permis. Ça, c'est pas venu naturellement. C'est les organisations de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé à cette mobilisation. Et donc, elles sont en partie responsables de cette bordélisation de l'université.
Jean-Sébastien Ferjou, symbole ultime de l'entrisme au sein des universités. Est-ce qu'on peut craindre un risque d'embrasement à l'image de ce qu'on a vu ces derniers jours et on le montrait dans Soir Info, notamment dans les universités américaines?
Je crois qu'il y a deux manières de le voir. Il y a une manière de le voir qui est pour garder les choses en proportion. Il y a des sociologues qui ont travaillé dessus. La jeunesse a toujours été mobilisée. Jacques Chirac vendait l'humanité à Sciences Po. Et il y a des sociologues qui ont travaillé sur ces mobilisations pour montrer qu'en fait, ce qui intéresse plus la plupart des gens qui participent à ces blocages, c'est le fait d'indiquer qu'ils font partie du groupe plus que la cause en elle-même. C'est finalement la cause du moment serait une autre, qu'il passerait à une autre. Pour autant, il ne faut absolument pas sous-estimer ce qui se passe. On peut réfléchir, se rappeler même ce qui s'est passé en Iran en 1978. Ça a commencé comme ça, la révolution islamique iranienne. Certains d'ailleurs commencent à se demander si on ne peut pas imaginer une forme de responsabilité de l'Iran dans la mobilisation, dans les mobilisations aux États-Unis, notamment.
Certains dans les services de renseignement.
Certains dans les services de renseignement commencent à se poser cette question-là. Vous faisiez référence tout à l'heure à l'ayatollah Khamenei. Le guide suprême de la révolution islamique a d'ailleurs qualifié, lui, non pas de manifestation pro-palestinienne, mais de manifestation pro-anti-israélienne.
Si vous voulez bien, Jean-Sébastien, j'avais prévu d'en parler dans un petit instant, mais alors comme vous le faites, je vais juste montrer à nos téléspectateurs pour illustrer exactement ce que vous êtes en train de dire. L'ayatollah Khamenei, qui a tweeté aujourd'hui, et je vous verrai la vidéo par la suite, puisque ce tweet est accompagné d'une vidéo. Voilà ce qui se passe dans le monde, même dans les pays occidentaux, Angleterre, France, différents États américains, etc. Les gens marchent en grand nombre dans les rues, scandent des slogans contre Israël et les États-Unis. Ils sont déshonorés et n'ont aucun remède à cela. En effet, Jean-Sébastien, il n'est pas question de manif pro-palestinienne ici, mais bien anti-israélienne. C'est très important de le mentionner. Regardez avec quoi l'ayatollah Khamenei, donc symbole ultime de la répression et du régime islamique en Iran, voilà ce qu'il diffuse également avec des images tournées ici en France. Vous avez pas mal de ces images qui concernent donc soit les universités américaines, soit ce qu'on a pu voir à Sciences Po ou à la Sorbonne. Je le disais, il n'est pas question de pro-Palestine, mais bien d'anti-Israël. En fait, voilà, les étudiants français sont en train de servir la cause d'un des régimes les plus répressifs et les plus totalitaires au monde.
Mais Julien, c'est pour ça que...
ignoble.
C'est pour ça que je vous parlais, juste pour finir, de 1978. Ça a commencé... comme ça, dans les universités iraniennes, ça a commencé par une alliance entre la bourgeoisie éclairée iranienne, les communistes, l'extrême gauche iranienne et les islamistes. Évidemment, ils se sont fait, tous ceux qui ont été les idiots, les naïfs de l'histoire, se sont fait éliminer très durement. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut rappeler aussi que les Palestiniens ont débarqué dans les bagages de Khomeini et qu'ils ont participé très violemment à la répression contre ceux qui s'opposaient à la révolution islamique, et que ça concernait aussi l'Europe. Ça concernait aussi l'Europe. Khomeini, il avait été hébergé en France. Michel Foucault, le grand philosophe français, avait pris fait et cause pour la révolution islamique. Donc cette convergence entre l'extrême gauche, la gauche radicale et l'islamisme, elle n'est pas nouvelle. Il y a 40 ans d'histoire, mais le CNRS, encore une fois, du haut de son expertise, nous explique que rien d'un point de vue scientifique ne permet de parler justement de ce phénomène-là. On attend qu'il nous donne la définition, quel est le mot pour décrire cette alliance entre l'islamisme et l'extrême gauche et la gauche radicale.
Et que pense Rima Hassan, l'une des colistières de Manon Aubry pour les prochaines européennes, activiste palestinienne? Que pense-t-elle du fait que le pouvoir iranien se serve des images ici en France? Écoutez son commentaire ce matin sur France Télévisions.
Je n'ai pas vu ce tweet, donc je ne suis absolument pas, en l'occurrence... Je ne connais même pas, donc c'est pour vous dire, je ne suis même pas sur les réseaux. Donc,
vous ne connaissez pas Khamenei ?
Non, mais je le connais. Si. Je suis pas quotidiennement ce qu'il poste ou ce qu'il commente en termes d'actualité. Je situe quand même ma parole en tant que citoyenne française en France et en Europe. Donc non, je ne suis pas ce qui peut être commenté en termes d'actualité. Non, j'ai pas de commentaire à faire. Je ne vais pas commenter, si vous voulez.
Vous n'avez pas l'impression là pour le coup d'être vous instrumentalisé par Khamenei, par
Mais absolument pas.
On sait même pas. Pas de commentaire.
Non, mais c'est...
Bah, bien sûr.
C'était dit juste avant. Il y a une convergence des luttes. Il y a des réseaux liés à l'islam radical qui ont infiltré notre pays et qui essaient de faire basculer la société avec une volonté de s'imposer, de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, d'imposer leur manière de voir leur société. C'est très limpide dans ce qu'ils font. C'est écrit depuis longtemps, c'est structuré, c'est complètement conceptualisé. Et puis il y a une partie de la jeunesse française qui fait une partie de nos élites qui cherchaient une lutte et qui l'ont trouvée. Il y a 50 ans, ça pouvait, ou 100 ans, ça peut être le Che Guevara. Ça pouvait, et là, ils ont trouvé. Ils défendent l'Iran. Et puis le leader iranien leur dit c'est bien ce que vous faites, et ils applaudissent. Voilà.
Alors, on les préférait quand ils jetaient de la soupe.
Voilà, mais où on en est, et ce qui est surréaliste, c'est qu'on a l'impression que le monde politique est tétanisé. Il y en a qui contestent, mais globalement, on est tétanisé. On ne sait plus comment réagir. Et cette jeunesse-là, qui est quand même formée, intellectuelle,
c'est ça, le truc,
elle a basculé dans l'horreur. Et c'est consternant.
Enfin, c'est, écoute, tiens, Alexandre, vous allez reprendre Karima aussi. Ouais. Je voudrais juste qu'on entende Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui parle notamment de la direction de Sciences Po. Parce que vous avez bien vu qu'à Sciences Po, il n'y a eu aucune sanction. C'est une qu'on a vue. La direction s'est couchée. Aucune raison que le phénomène ne se reproduise pas, puisqu'il n'y a eu aucune sanction. La preuve aujourd'hui à la Sorbonne. Écoutez Manuel Valls sur cette démission des institutions.
On va organiser un débat sur la légitimité l'expression de haine des Juifs et d'Israël. On va se plier aux exigences de l'extrême gauche, de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes. Et on va plier devant une minorité d'étudiants violentes qui terrorisent la majorité
et, comment vous appelez
et qui bloquent Sciences Po.
Comment vous qualifiez
J'appelle ça de la lâcheté. J'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme.
Manuel Valls avec Sonia Mabrouk ce matin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre Sciences Po sous tutelle, par exemple?
Et Valérie pourquoi
Pécresse, ce matin, cet après-midi, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a rappelé qu'elle décidait de suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Une minorité de radicalisés appelle à la haine antisémite, instrumentalisée par LFI et ses alliés islamo-gauchistes. Ils ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative.
Non, mais pourquoi pas mettre sous tutelle? Valérie Pécresse a décidé de suspendre tous les financements. On verra jusqu'à combien de temps elle tient. C'est ça, c'est intéressant, mais c'est un bon signal envoyé. C'est soumission, en fait. Il a parlé de reddition, mais c'est le scénario de soumission. Et c'est un long processus. C'est ça qu'il faut voir aussi, si on se pose. C'est que ça avait commencé avec Richard Descoings, qui idéologiquement aurait pu être macroniste. Il était soutenu par Nicolas Sarkozy. C'était l'idée de faire une fac, une grande école à l'américaine, multiculturalisme. Et on voit là où ça mène. Le multiculturalisme mène in fine à ce gauchisme et à cet islamo-gauchisme. Donc beaucoup ont des responsabilités, y compris dans ceux qui ont
exercé le pouvoir. C'est vrai que là, vous sanctionnez des milliers d'étudiants de Sciences Po au nom de cette fameuse minorité. Parce qu'il y a des étudiants de Sciences Po,
non,
si vous arrêtez
pas, mais la mise sous tutelle, c'est pas sanctionné.
Je parle de la décision de Valérie Pécresse.
Des gens responsables.
De geler les financements de la région Île-de-France.
Elle les a suspendus pour l'instant. Elle les a gelés. Mais c'est un moyen de mettre la pression pour avoir un changement de direction. C'est ça la mise sous tutelle. Tout à l'heure, François, vous parliez d'étudiants formés, intellectuels. Moi, c'est ce qui me fait peur. Et ça dit beaucoup des élites. Est-ce qu'ils sont formés ou est-ce qu'ils sont déformés? C'est la réalité.
C'est la question.
Et tout ça prospère quand même sur beaucoup d'ignorants. Ils ne savent pas situer la Palestine sur une carte. La plupart, ils ne savent pas faire la différence entre des bombardements militaires qui peuvent faire effectivement beaucoup de victimes et on peut le déplorer, et un génocide. Enfin, les mots ont un sens. Et effectivement, moi, je n'ai pas fait Sciences Po, mais on pourrait imaginer que des étudiants de Sciences Po le sachent. Donc franchement, on se demande ce qu'ils apprennent et on se demande ce que... Voilà, le système de formation des grandes écoles, des universités est totalement vicié. Il y a tout à revoir depuis le... Voilà, et c'est nos futurs dirigeants peut-être. Donc c'est quand même très, très inquiétant.
Direction de Sciences Po qui se couche, la ministre de l'Enseignement supérieur qui moufte à peine. Écoutez, Madame Sylvie Retailleau, carrément, vous reprendrez. Madame Retailleau.
Je crois qu'on doit parler de la vie étudiante, vraiment de la vie étudiante. Sur les points de Sciences Po, j'ai exprimé chez vos collègues et je fermerai vous dire que le débat, oui, l'expression, oui, le blocage, non, et je dirais l'escalade, encore moins.
On est rassuré, Karim Abrik. Quelle est la responsabilité du gouvernement dans ce que nous sommes en train de vivre? On peut se la poser décemment, cette question aussi.
Je pense qu'ils sont... terrorisés en fait en ce moment parce que ils ont
il est allé
peur...
à Sciences Po, hein, Gabriel Attal, il y a 15 jours,
oui.
À peine, pour dire quoi?
Faire de la com. Pour dire que c'était pas bien.
Ouais. Je pense qu'ils ont peur de la contagion, si vous voulez, du mimétisme, parce que c'est ce qu'on voit. Notamment, en fait, c'est parti beaucoup des universités américaines, on va se le dire, comme ça. Donc, en Amérique du Nord, ça fait partie, on l'a vu avec les grandes universités, Harvard et compagnie, où on voit aussi, vous avez parlé de cette idéologie au fil des années, il y a quelques décennies, c'était, encore une fois, il y avait aussi cette gauche radicale qui était très présente. Vous aviez des mouvements, donc on était marxiste, léniniste, maoïste. Hein, c'était ce qui était valorisé aussi au sein d'une partie de la jeunesse qui étudiait dans les universités et tout ça. Donc, ça faisait légion. Et je vous dirais même qu'il y a des professeurs qui ont été embauchés, qui avaient cette idéologie. Donc, il y a ça aussi. Il faut garder en tête que ça fait des décennies aussi qu'il y a une partie, finalement, de cette jeunesse, notamment dans les sciences sociales, qui est baignée dans ces idéologies-là. Et aujourd'hui, ça culmine, en fait, avec, oui, le wokisme. On n'aime pas nécessairement galvauder cette expression, mais c'est quoi le wokisme? Les éveillés, c'est de dire que, finalement, aujourd'hui, ça serait la libération des opprimés. Alors, on a tourné ça vers les Palestiniens, et maintenant, Israël est perçu comme l'entité colonialiste, vous voyez, et c'est un peu ça. Donc, bref, Je dirais que le gouvernement a peur de cette contagion parce que maintenant, on le voit dans les universités ici. Moi, je ne serais même pas étonnée que ça puisse prendre de l'ampleur, dépendamment de ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un cessez-le-feu ou pas? Mais oui, ça pourrait.
Mais dans un mimétisme bête et méchant.
Complètement. Et... Il y a ce mimétisme qui est très puissant. Même, je regarde un petit peu ce qui se passait aux États-Unis, au Canada, et maintenant ici, dans les universités, les facultés aussi de sciences sociales. On en appelle au boycottage, littéralement. Même le boycottage, les universités avec les partenariats avec Israël, avec des entreprises. Donc, on est vraiment... Je pense que la jeunesse s'est toujours chercher des causes. Il y avait la cause de l'environnement. Et aujourd'hui, je ne veux pas généraliser, mais il y a une partie... En fait, qu'est-ce qui anime en ce moment une partie de cette jeunesse-là qui veut se jeter?
Il y a ce combat en ce moment qui peut dégénérer.
Non, mais pas que. Je pense que quand même...
On avance, Sébastien, très vite, s'il vous plaît.
C'est quand même important.
Bien sûr.
Il y a beaucoup, je pense, de gens qui participent à ces mobilisations-là,
oui,
qui ne sont pas dans la haine des Juifs, qui croient sincèrement...
Qui se mobilisent avec d'autres, avec des personnes raisonnables. Oui,
mais je
sais de quoi elle parle.
Mais je suis d'accord. Israël disparaît.
Mais les From the River to the Sea, vous les avez entendus aujourd'hui encore.
Hein. Enfin, vous venez pas me l'expliquer à moi, je vais passer mon temps à le dénoncer, à me prendre des insultes, voire des menaces de tombereaux de militants insoumis à longueur de journée, donc ça va. Simplement, on peut aussi être honnête et constater qu'il y a des gens qui certainement se mobilisent parce qu'ils pensent véritablement que, et ça n'est pas d'ailleurs, ils ne font pas que le penser, il y a une tragédie qui est vécue par les civils à Gaza. La question qu'on peut leur poser, c'est est-il raisonnable de pointer exclusivement des responsabilités d'Israël quand on peut considérer que le Hamas a évidemment des responsabilités dans ce qui arrive aux Palestiniens, que le Qatar peut en avoir, que la République islamique d'Iran peut en avoir. Et dernier point, moi je trouve qu'il y a une grande naïveté de la part de Gabriel Attal quand il dit bien sûr que ça vient aussi des États-Unis. Bien sûr, et vous y faisiez référence, Karima, ça s'inscrit dans cette mouvance woke. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de commencer à se demander s'il n'y a pas derrière, par exemple, des interventions de l'Iran. Ne sous-estimons pas la volonté de déstabilisation des démocraties
et on sait que l'axe russo-iranien également.
Et Gabriel Attal était quand même... J'ai trouvé sa déclaration, extrêmement naïve, pour ne pas dire pire, quand il a dit « Ah, c'est un truc qui vient d'Amérique du Nord ». Non, ça ne vient pas que d'outre-Atlantique, ça vient justement d'ailleurs. Il serait peut-être temps qu'en tant que Premier ministre, il s'en rende compte.
Mais Matisse, alors très vite, allez-y. On parle de Matisse et de ce drame qui touche la ville de Châteauroux.
Les agitateurs professionnels là, dans les manifs, on va les voir encore mercredi, 1er mai. Il y aura un mélange de black blocs, effectivement, de pro-palestiniens, de pro, etc. Voilà.
Vous avez premières infos sur ce qui attend les forces de l'ordre le 1er mai?
On voit bien qu'en ce moment, la société est éruptive, donc on sait très bien que mercredi, il risque d'y avoir des tensions. Après, effectivement, la jeunesse, elle a qu'un seul prisme. C'est la démocratie, le capital, le marché, etc. Donc, ils s'inventent effectivement une cause. Là, je vous rejoins. Cette cause révolutionnaire qu'ils n'ont pas eue, sauf que Trotsky, Lénine, c'est terminé. Hein. Et je les invite, moi, à aller justement dans les anciens pays de l'Est qui ont souffert du totalitarisme. Et quand vous allez visiter les musées, comme je reviens avec mon Prague, mais c'est très intéressant, à Prague, vous allez visiter le musée. Ouais, ça m'a marqué parce que, justement, dedans, il y avait le totalitarisme, il y avait les souvenirs qu'ils avaient de l'époque soviétique. Je peux vous dire que c'est un fil barbelé qu'ils ont mis en exergue. C'est pour eux, c'était ça. C'était la punition, c'était faire des enfants en batterie, c'était travailler dans les champs, c'était tout le monde avait la même habitation, etc. Je peux vous dire, c'était pas rigolo. Et aujourd'hui, ces pays-là, ils en veulent pas de totalitarisme. Alors que cette jeunesse dorée, très enfants gâtés, qu'ils aillent visiter un petit peu les endroits où les peuples ont souffert.
Non, mais qu'ils manifestent pour la paix. Qu'ils manifestent pour la paix et qu'on s'intéresse à la vie des civils palestiniens. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est quand ça dégénère.
Avec les deux drapeaux. Parce que là, vous avez vu qu'il y a eu des jeunes pro-israéliens qui sont venus, ça a dégénéré.
Il y a de l'antisémitisme, là, on a basculé.
Mathis, cet adolescent de 15 ans poignardé à mort dans les rues de Châteauroux dans l'Indre samedi en début de soirée. La victime qui présentait de nombreuses plaies au niveau du thorax et dans la région du cœur a été prise en charge par les secours après son agression. Malheureusement, il est décédé. Le suspect, âgé de 15 ans, est afghan. Sa mère a également été interpellée. Les deux ont été placés en garde à vue puis déférés devant un juge aujourd'hui. Les derniers éléments de l'enquête avec Célia Barotte sur place pour CNews.
C'est ici dans le quartier Saint-Denis que Mathis a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos et dans le thorax. Selon une source proche du dossier, Mathis et d'autres personnes étaient présentes dans un véhicule lorsque l'agresseur est arrivé. Il a poignardé Mathis. Mathis a tenté de fuir mais le suspect l'a rattrapé et l'a poignardé à nouveau. Cette même source a fait savoir que la mère du suspect a giflé à plusieurs reprises Mathis alors qu'il venait d'être poignardé et qu'il attendait l'arrivée des secours. De plus, face aux enquêteurs, le jeune Afghan de 15 ans en situation régulière sur le territoire a expliqué que Mathis, quelques heures avant les faits, l'avait frappé et l'avait insulté, je cite, de fils de Ben Laden. Il lui avait même dit de retourner dans son pays. Même si les gardes à vue des deux interpellés sont terminées, elles sont levées. Les investigations se poursuivent pour connaître les circonstances exactes des faits et la responsabilité de chacun des protagonistes.
La victime touchée au thorax, dans la région du cœur, décédée des suites de ses blessures. On ne sait plus vraiment quoi dire, Jean-Christophe Couvi, tant on est submergé par les affaires de ce type, tant nous sommes confrontés à une barbarie juvénile qui nous explose chaque jour à la figure. Comment on explique un tel niveau de sauvagerie? On a l'impression qu'en fait, on ne peut rien y faire, que la semaine dernière, on a commenté une affaire qu'on semblait être le summum de l'horreur et de la barbarie, et puis qu'aujourd'hui, une nouvelle affaire nous fait réaliser que ben non, on n'avait pas atteint le summum, puisqu'on le touche encore.
Bah, c'est juste que la barbarie est à portée de seuil, j'allais dire, c'est en bas de chez nous maintenant.
La mer.
Oui, mais la mer a participé, alors c'est pour ça qu'il
vient... Le corps de Mathis gisant au sol.
Oui, ça dément. Mais alors, il faut remettre tout dans le contexte, quartier qui est pas pourri, hein, quartier tranquille, il y a 3-4 étages, les collègues nous le disent, c'est un quartier tranquille. Il y a une famille, effectivement, cette famille-là, déstructurée, le père rentre, des fois les collègues les connaissent parce qu'il y a des problèmes aussi de temps en temps d'alcool, de disputes, donc on voit bien que les gamins, ils sont aussi laissés, ils n'ont pas de structure familiale, ils sont laissés dehors. Il y a cette propension toujours à se faire justice et soi-disant, on avait encore une fois des honneurs, un honneur. Donc on prend un couteau et on se venge. Et ça, c'est horrible. On a 63% des auteurs de coups de couteau qui sont déjà connus de la police. Là, ce gamin-là,
lui, il était passé aussi, hein.
Déjà la semaine dernière devant un juge. Il était mis en contrôle judiciaire. Le propre avocat, parce que ça c'est du off, mais c'est vrai que les collègues nous le disent, le propre avocat qui avait défendu ce gamin était voir le substitut en disant « Attention, il va y avoir un problème ». Ce gamin, il est en train de glisser vers de la délinquance dure. Les collègues sont allés voir aussi le procureur pour dire « Attention, on est en train de le voir depuis un an. À chaque fois qu'il y a du bazar dans le quartier, à chaque fois,
il vient en contact. » Vous vous rendez compte si vous dites ça au père de Mathis ou à la mère de Mathis?
Mais c'est la réalité, en fait.
Nous,
on les voit, les gamins. On les voit, les gamins qui sont en train de glisser sur la délinquance dure et qui sont en train de péter des câbles. Le problème, c'est que derrière, on a aussi une justice qui est incapable, et parce que la loi ne le permet pas, de faire quelque chose. Ces gamins-là, à un moment donné, il faut les substituer aux parents, les envoyer ailleurs, leur donner notre structure et les sortir de là. Je veux dire, on peut les punir, mais quand on punit, c'est trop tard.
Surtout quand les parents participent. On est sous contrôle judiciaire.
Et une fois qu'on fait ce contrôle judiciaire, on le remet dans les bras de la famille, là où justement il est pas équilibré. Donc en fait, c'est ça le problème.
Amaury, vous en savez un petit peu plus, vous avez creusé un petit peu aujourd'hui sur le profil de ce jeune garçon.
Je voudrais d'abord juste rebondir sur ce que dit Jean-Christophe Couvi. C'est intéressant, c'est qu'effectivement, comme c'est un mineur qui a moins de 16 ans, la détention provisoire, effectivement, c'est vraiment exceptionnel et il faut que ce soit pour... des faits criminels.
Il a un profil assez exceptionnel, tout
ou
même.
Pour des faits criminels, c'est-à-dire de nature criminelle. Comme il était mis en cause, mis en examen pour vol aggravé avec violence et que c'est délictuel et qu'il a moins de 16 ans, on ne pouvait pas le placer en détention provisoire. Mais, et là où c'est pas tout à fait exact ce qu'a dit la procureure, on pouvait quand même assortir son contrôle judiciaire d'un placement en centre éducatif fermé.
Pourquoi ça n'a pas été fait?
Parce qu'elle a probablement estimé que ce n'était pas nécessaire. Je ne
deux
sais
fois
pas.
De suite, je crois qu'en février, en mars, il a des affaires de vol avec violence et voilà, notamment l'utilisation d'un
avec couteau.
Le dernier, il y a 10 jours ou 15 jours, où il met le couteau sous la gorge de quelqu'un pour récupérer son téléphone.
C'est ça. Vous savez, en fait, ça fait un peu penser à l'affaire de Grande-Synthe. C'était pareil. Un rendez-vous par un site internet, probablement pour une rencontre amoureuse ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, qui se transforme en guet-apens, couteau sous la gorge, vol du téléphone, etc.
Et certains parlent de Rix quelques heures après la mort de ce jeune. Alors juste un dernier mot avec Amaury, parce que je voudrais qu'Amaury nous dise qu'il a pu trouver comme renseignement sur l'auteur présumé.
Non, mais j'en ai pas beaucoup plus, mais quand même. Donc ce jeune mis en cause, on ne peut pas donner son prénom parce qu'il est mineur. Il est né le 1er janvier 2009 à Kaboul, en Afghanistan. Donc il est afghan, mais il faut bien comprendre que dans 3 ans, il peut, a priori, il sera français, il pourra demander et avoir la nationalité française.
Peut-être pas avec ce qui risque de lui arriver.
Pas forcément, ça va pas forcément l'empêcher de l'avoir. Après, c'est une décision du préfet. Mais
vous pouvez être jugé pour assassinat et devenir français.
C'est pas incompatible. En fait, la condition.
Naïvement penser qu'un étranger coupable d'un tel crime.
La condition pour avoir la nationalité française à 18 ans quand vous avez grandi en France, c'est d'avoir vécu 5 ans avant votre demande, ce qui, a priori, sera son cas. Après, le préfet peut décider que, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la pression médiatique, on ne lui donnera pas.
D'accord.
Mais je veux dire, il n'y a pas de règle absolument là-dessus. Donc sa famille, enfin en tout cas ça, c'est ce qu'a sa mère donc, avait été entendue dans les précédentes affaires. Et elle avait déclaré que la famille était arrivée aux alentours de 2014, quand justement le mis en cause avait 4 ans. Et c'est justement, elle a expliqué aussi aux policiers qu'il aurait eu une espèce de fragilité depuis cette migration, qu'il y aurait eu un accident pendant... ce voyage. C'est une famille qui aurait 6 enfants, et d'ailleurs la mère est enceinte du 7e, et effectivement un couple conflictuel. Là c'est pareil, hein, je me base sur les sources policières locales, mais avec effectivement la police qui est intervenue à plusieurs reprises. Alors pas de violence conjugale, puisque le couple n'était pas connu au sens de violence, mais des voisins qui effectivement préviennent la police en disant ils font du bruit, etc. Oui, le père qui quittait de temps en temps le domicile, puisque les parents se séparaient, se remettaient ensemble régulièrement.
Une voisine qui a témoigné au micro de Célia Barotte aujourd'hui. François-Alexandre, vous reprenez.
J'ai entendu rire et crier. Donc, j'ai regardé par la fenêtre au début, parce que j'étais quand même un peu surprise. Parce que c'est un quartier très, très calme, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu des jeunes, mais comme ça rigolait, je me suis dit « Oh, ils s'amusent ». Puis quelques secondes après, j'ai entendu hurler. Et en fait, le jeune homme qui était debout la seconde était à terre. Donc je suis tout de suite descendue aider. Le plus dur, c'est surtout qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était des coups de couteau. On pensait qu'il s'était fait agresser, mais pas qu'il s'était pris des coups de couteau. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. C'est peut-être ça ce qu'on s'en veut aussi énormément. Parce qu'on aurait aimé faire plus pour le sauver. Donc c'est vraiment très dur.
Et certains tentent d'inverser les rôles. On apprend au gré de l'enquête que ce jeune Matisse aurait, ce sont les dires de l'assassin présumé, aurait dit quelques heures plus tôt « rentre dans ton pays, t'es le fils de Ben Laden » ou une insulte de ce type, pour ensuite recevoir ses coups mortels de la part de ce jeune homme.
C'est intéressant.
Et certains seront tentés de dire « il avait un peu cherché ». Rien ne justifie ce qui est arrivé à ce garçon.
On accueille de plus en plus des familles... communautés qui viennent de zones tribales, qui ont un mode de fonctionnement tribal, qui vivent dans la guerre depuis toujours, qui sont habitués à se défendre, y compris violemment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans des villes comme Châteauroux, qui ne sont pas connues comme étant des villes où il y a un fort taux de délinquance? Ce qui ressort du dossier, c'est que c'est un gamin qui a dérapé depuis toujours, signalé, et il n'y a pas de prise en charge.
C'est ça.
Et on attend le drame pour dire « ah mince ». Et pourtant, tout le monde savait qu'il était en grande difficulté, que la famille était déstructurée, qu'ils avaient des pratiques culturelles qui pouvaient amener à des catastrophes, et il n'y a pas de prise en charge.
Vous savez qu'en 2021, donc il y a 3 ans, le maire de Châteauroux avait fait savoir qu'il était contre une arrivée massive de migrants afghans, 1000 migrants afghans dans sa commune. En fait, on a mis des bombes à retardement.
C'est ce qu'on appelle la politique de peuplement.
Oui, oui.
Il y a des bailleurs sociaux à la demande de l'État qui attribuent des logements de plus en plus en région parisienne. Et dans des villes qui ne sont pas en capacité de prendre en charge les problèmes.
Alexandre Devecchio, écoutez juste le maire de Châteauroux qui réagisse aujourd'hui. Ouais. Vous prenez la suite, Alexandre Devecchio.
L'auteur comme la victime ont 15 ans.
Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à deux reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération.
Contre l'arrivée des qu'est-ce qu'il a mis en place ce maire lui-même? Je reprends ce que vous disiez il y a un instant.
Mais...
parce que c'est
non, mais François, Alexandre, vous l'avez dit, il n'a pas le choix, et on va se parler clairement. Ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire. Ils n'avaient rien à faire avant, et maintenant
là.
Encore
ça,
moins.
Ça, c'est pas vrai.
Ils sont
là.
Pardon,
non,
ils sont là. Pardon,
ils
sont
en situation
régulière.
Leurs mœurs n'ont rien à faire sur notre territoire. Mais s'ils arrivent d'un pays en guerre et qu'ils sont en danger de mort...
Julien, en 2014, quand ils sont arrivés en France, a priori, il n'y avait pas encore les talibans. Et le problème, c'est que vous
savez... Ils faisaient bon vivre en Afghanistan.
Non, mais c'est des zones privées.
Ce que je veux dire, c'est
mais
que
peu
ça
importe,
fait des années
vous allez accueillir
flux.
Tous les gens
ça
où fait... il ne fait pas bon vivre.
Ça fait des années.
Le statut de réfugié est précis, ce sont pour les combattants politiques. Est-ce que c'était des combattants politiques?
Non, mais Alexandre...
Non. Ensuite, il a un casier judiciaire.
Laissez finir, François, je reviens.
Ensuite, il a un casier judiciaire. Moi, j'aimerais bien savoir, je vais vous dire... Je pense qu'un État digne de ce nom devrait les renvoyer tous, toute la famille maintenant. Surtout que la mère est mêlée à cette histoire. Et je pense que ce ne sera pas fait. Tous les Français
disent mais on peut pas
qu'est-ce
renvoyer.
Qu'ils font,
non, non, mais
qu'est-ce qu'ils font sur le territoire.
Et c'est là, ça c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent d'Afghanistan, on ne peut plus les renvoyer. Donc non, c'est un venu sans retour possible. Et même ce jeune mis en cause, s'il n'a pas la nationalité à 18 ans, de toute façon, on ne pourra pas le renvoyer en Afghanistan,
mais
puisque c'est les
là, talibans.
C'est
une impulsion.
Alexandre, on est d'accord, mais ils sont là. Le problème, ok. Fallait peut-être pas qu'ils soient là, mais ils sont là.
Mais arrêtons de dire on va les prendre en charge. Okay. Non, on peut plus
mais
les prendre en charge.
On laisse les gamins peut... se faire tuer.
Mais non, maintenant.
Non, mais moi, je suis d'accord
mais...
avec ce que dit François.
J'aimerais bien que Jean-Christophe puisse en placer
mais
une.
Juste d'un mot, la réalité, c'est que oui, il y a un certain nombre de gens qui sont présents en France, qui ne sont pas tous ni délinquants ni violents, loin de là. Même si incontestablement, nous avons un problème majeur, et je pense que là, la responsabilité accablante, elle est celle des pouvoirs publics. Quand vous décrivez l'itinéraire de ce gamin et que personne n'est intervenu, déjà, en quelque sorte, c'est même non assistance à personne en danger, y compris pour lui, parce que ne pas être capable de s'intéresser. Et donc, que font... Mais un jour, il faudrait que les magistrats qui sont responsables de ça, que
c'est
les
vrai.
Éducateurs, que justement les responsables politiques, parce que vous le disiez aussi à Maurice, c'est la loi. Les magistrats ne peuvent pas appliquer des lois qui les empêchent de traiter le problème des mineurs. Mais tout ça, ce sont des responsabilités
vous voyez
criminelles.
Que ça
un jour,
pas. Une fois qu'ils sont sur le territoire...
Jean-Christophe,
mais ça marche pas parce qu'il y a
un peu d'autorité sur ce plateau.
Il n'y a pas de choc politique. Il faut un choc politique pour que ceux qui ont des responsabilités les assument.
Il faut ramener ça à l'image d'un État. C'est-à-dire là, c'est des milliers de cas comme ça. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens? C'est ça la vraie question.
Oui, des milliers.
Elle a les moyens avec les mêmes
collectivités
locales.
De jeunes afghans qui poignardent
Afghans, de jeunes en déshérence sociale qui sont en train de glisser sur l'ultra-violence. On a déjà, on les a identifiés, mais dès le CP, le CE1, le CE2, on le sait. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent.
En CP, c'est
dans les commissariats, les collègues me disent, on connaît le nom des délinquants avant même de nos collègues, parce que c'est les mêmes qui reviennent tous les jours dans les gardes à vue. Ouvrez les cahiers de garde à vue, vous allez voir, ça explose. Vous allez à Châteauroux, il y a 3 cellules de garde à vue individuelles et une cellule collective. Elles sont pleines tous les jours, les collègues nous disent qu'on n'a jamais vu ça avant.
Il y a 4-5 ans, si on m'avait dit que je parlerais d'une affaire comme ça à
Châteauroux, il y a un diagonal du vide. Châteauroux, aucun Français sait où c'est.
Tous les trains y passent,
par contre,
ça
tous les Afghans.
Si, c'est dans l'Indre.
Oui. Par contre, les Afghans réfugiés, les mineurs isolés, les collègues nous disent, ils sonnent au commissariat, bonjour, je suis mineur isolé, il faut me prendre en charge. Et on les prend en charge parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, à côté de ça, vous avez 140 policiers pour une ville avec l'agglomération de 75 000 habitants, 140 policiers, la nuit, ils sont deux équipages, plus une BAC jusqu'à 1h du matin. Les gars, ils sont à poil. Les collègues, ils ne peuvent pas travailler.
Bien, on n'a pas les moyens
d'agir et on ne pourra rien faire comme ça.
23h30, dans un instant, on va entendre le papa de Mathis qui a réagi chez nos confrères d'RTL ce soir. Ce sera important d'entendre cet homme qui est évidemment dévasté ce soir. On fait un point en une minute sur l'essentiel avec Maureen et on se retrouve tout de suite.
Des militants pro-palestiniens évacués de la Sorbonne par les forces de l'ordre. Une cinquantaine de manifestants s'étaient installés dans la cour de l'université. Ils ont été dispersés dans le calme selon la préfecture de police. Quelques jours après une mobilisation pro-Gaza sous tension à Sciences Po Paris, le Premier ministre Gabriel Attal avait demandé cette dispersion à la Sorbonne. Et justement, la région Île-de-France suspend ses financements à destination de Sciences Po. Une annonce de la présidente de région, Valérie Pécresse. Une décision qui intervient trois jours après l'occupation partielle de l'établissement parisien par des manifestants pro-palestiniens. Valérie Pécresse appelle à un sursaut d'autorité et accuse une minorité de radicaliser, de vouloir dicter leur loi, selon ses mots. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez renonce à démissionner après 5 jours de silence et d'arrêt de ses fonctions. Pedro Sanchez avait déclaré mercredi dernier avoir besoin de réfléchir, selon ses mots, après une enquête ouverte contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Attaque portée par une coalition des intérêts de la droite et de l'ultra-droite, a-t-il déclaré.
Merci beaucoup Maureen Vidal. Le papa de Mathis s'est confié ce soir, écoutez-le.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et même à tout, quoi. Et même à Matisse. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et j'entends de tout et de rien. Donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête. Ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout. Et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
On veut bien essayer d'être des vrais gentils également. Et le plus important dans un moment comme celui-là, c'est évidemment de respecter la volonté d'un papa comme lui. Mais il y a des raisons aussi politiques qui peuvent expliquer Karim Abrik la mort de son fils ce soir. Pas de récupération, soyez gentils. Mais il y a un moment, si on ne pointe pas les choses du doigt, je ne suis pas sûr que les choses avanceront.
Une chose à la fois, c'est-à-dire que, bon, en ce moment, il y a ce jeune qui est mort, donc il y a un père qui a perdu son fils, qui doit être en état de choc. Donc, évidemment, on va lui envoyer les sympathies, on pense à lui, on pense à la famille. Je pense que c'est un choc pour tout le monde. Moi, c'est la première étape. Ensuite, je pense que la gentillesse, pour moi, ça va être la justice aussi après. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça, donc, et les personnes qui sont responsables, eh bien oui, la justice va devoir faire son travail. Et c'est-à-dire que comment se fait-il, il y a des questions déjà qu'on peut commencer à se poser, comment se fait-il, il était signalé, on connaissait son parcours violent, et c'était pas des minces choses, là, on a parlé de délit, mais je veux dire, c'était quand même quelque chose d'important. Si
nous sommes dans un pays qui n'incarcère pas les mineurs, donc voilà le résultat.
Oui, mais ça existe quand même des centres fermés. Si jamais vous menacez la vie d'autrui, on peut se dire quand même qu'il y a une responsabilité aussi de l'État, de la justice. Alors, il va falloir savoir justement, est-ce qu'il y a eu des failles? En tout cas, pour moi, il y en a eu certainement. Je veux dire, quand il y a finalement la résultante, il y a quand même un jeune qui est mort. Et ensuite, encore une fois, bon, on verra bien pour l'enquête, mais quand on pense à cette histoire, moi, moi j'ai été bouleversée en plus quand j'ai appris cette histoire où présumément que la mère aurait frappé ce jeune.
C'est de l'horreur qui était sur l'horreur. Terre.
Voilà, donc c'est...
Poignardé, baignant dans son sang, et cette mère qui arrive et qui est donc enceinte, selon ce que nous dit Amaury, et qui voit finalement le miroir de son fils, parce qu'ils ont le même âge. C'est le miroir de son fils qui est au sol. Donc, et qu'elle gifle alors qu'il est en train de mourir.
Pour revenir à cette histoire, quand on parle de gentillesse, pour moi, c'est en fait la responsabilité qu'on a tous, et qu'il y a une suite à tout ça, c'est de savoir ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions, et que finalement, on revoit peut-être la question de la justice des mineurs aussi.
Comment ça se passe? En 2014, ils arrivent. Ce sont donc des primo-arrivants.
Mmh. La famille de ce
jeune. La famille, ils ont quelques enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend à l'école. On ne parle pas en mode français. Ils ont dit aux enseignants, excusez-moi du terme, débrouillez-vous. Hein. Les enseignants, il va y avoir une famille afghane, plusieurs.
Donc en fait, ce n'est pas un échec de c'est pas dû à l'immigration en tant que telle. C'est un échec d'intégration, d'assimilation, d'accueil.
C'est une partie. L'absence de notre politique d'immigration qu'on est incapable d'accueillir normalement.
Mais pardon. Et on dit, ce sont les conséquences pures du laxisme migratoire.
Et se dire peut-être qu'une famille qui arrive d'Afghanistan avec des enfants qui ont été traumatisés, peut-être qu'on les suive. psychologiquement. Et comme il n'y a personne qui les...
Mais François, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il y a un double enjeu quand même. Et les gens qui veulent continuer à ouvrir les frontières ou à privilégier le droit des individus, il faudra quand même qu'ils nous expliquent. Il y a deux enjeux. Il y en a un, c'est la culture de l'honneur. Vous faisiez référence à l'appartenance tribale et donc déjà au fait de vouloir venger tout le groupe quand l'un d'entre eux se sent... Parce que c'est peut-être aussi pour ça que la mère a réagi de la manière dont elle a agi, parce que c'était l'honneur de la famille qui à ses yeux, elle ne se rend pas compte que finalement, ce qu'elle a fait est bien pire en réalité pour l'honneur de la famille.
C'est le jour sans fin.
Que le fait de ne pas... Mais donc, il y a cette culture de l'honneur à laquelle nous ne savons pas faire face, parce que ça n'est pas la culture des sociétés occidentales, et il y a aussi des sociétés occidentales qui se sont désarmées moralement parce que nous avons renoncé à la violence. Nous élevons nos enfants dans l'idée que l'usage de la violence, c'est mal, que la violence n'est pas un mode de régulation des relations sociales. Il y a 50 ans, 80 ans même dans les sociétés occidentales, on savait plus facilement se coller des roustes. On ne sait plus faire ça. Donc moi, j'attends de ceux qui veulent maintenir les frontières ouvertes, qui nous expliquent comment une société qui est désarmée parce qu'elle n'est pas justement dans la vengeance ni dans la loi du talion et qu'elle n'est plus dans la violence, comment elle fait.
Mais parce que si personne,
si les magistrats n'assument pas leurs responsabilités, si les responsables politiques n'assument pas leurs responsabilités, ne donnent pas les moyens, vous le disiez, à l'école, que font des profs, que ce soit à Châteauroux, n'importe où, quand on leur dit « bon allez, débrouillez-vous ». Que peuvent-ils faire? Il y a une responsabilité politique accablante et il y a une responsabilité morale accablante de tous ceux qui ont dit à chaque fois qu'on s'en préoccupait, c'était forcément parce qu'on était raciste. Ceux-là, ils ont du sang sur les mains. Ceux-là, ils sont complices de tous les meurtres auxquels nous assistons aujourd'hui.
Pour aller un peu plus loin sur ce constat que vous faites, Jean-Sébastien, je voudrais que vous entendiez Xavier Hofer, le criminologue qui était dans Midi News tout à l'heure. Il analyse également cette situation. Écoutez.
Dans certains secteurs en France, les jeunes gens de 15, 16 et 17 ans ont une plus grande maturité à ce qu'on appelle la culture de la rue que même les magistrats qu'ils ont en face d'eux. Hein, ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, tout ce qu'on entend ces temps-ci omet simplement une chose. On entend des choses, oui, il faut faire des couvre-feux pour les mineurs, etc. Mais partout, toujours, tout se passe partout de la même façon. Évidemment, non. Qui commet ces actes et où ? Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, on n'aura pas la phase primordiale de tout acte social, que ce soit votre voiture qui tombe en panne, que ce soit votre petite dernière qui est 42 fièvres, la première chose à faire, c'est un diagnostic. Combien de fois a-t-on dit ici que des gens qui venaient de pays en guerre, c'est le cas de l'Afghanistan, il fallait peut-être être un peu prudent avec le fait de les larguer dans la nature comme ça, parce que leurs réflexes, ils n'y peuvent rien, ce sont des réflexes qu'ils ont appris. Un réflexe, ça préempte le jugement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait automatiquement, comme de se cramponner quand on va tomber. Lui, poignarder, c'est peut-être un acte évident, vous comprenez? Mais pourquoi laisse-t-on la population en contact avec de semblables, dans certains cas, évidemment pas tous, jeunes fauves?
C'est ce qu'il dit, oui, c'est l'échec de l'intégration, voilà, de l'assimilation.
Juste un exemple. Moi, j'avais beaucoup de primo-arrivants qui arrivaient à Sarcelles, que les enseignants récupéraient.
Et je rappelle que vous êtes ancien maire de Sarcelles.
Et j'avais été obligé de recruter une traductrice pour que les enseignants puissent discuter avec les parents. Ils ne parlaient pas le français. Et ils devaient expliquer aux parents que le gosse avait quelques difficultés. Il ne parlait pas la même langue. Voilà.
Non, mais je suis d'accord.
Il n'y a pas de politique d'intégration
possible. Non. Quand nos policiers, on ne paye pas leurs heures supplémentaires. Oui, pardonnez-moi. Quand on n'a pas de lit à l'hôpital. Quand on embête, excusez-moi, je reste poli, les Français qui travaillent pour travailler plus. Est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir des gens qui viennent de si loin? Enfin, il y a eu des vagues d'immigration en France.
Ce serait bien que la gauche tienne ce discours également. Voilà. Je pense qu'on peut être de gauche sans être forcément aveugle.
Vous voyez bien que
c'est un grand problème sécuritaire dans ce pays avec l'immigration.
On l'a été pour la quitter la guerre,
comme le dit Xavier Hofer, avec une violence, des troubles psychiatriques souvent.
Vous avez quitté la gauche, vous a quitté. François.
Famille de 6 enfants, on ne va pas mettre un fonctionnaire derrière chaque enfant. Donc ce n'est pas jouable à un moment donné dans un État
que dans des écoles où il y a beaucoup de population. Alors peut-être qu'il ne faut pas les accueillir. Mais dès lors qu'ils sont accueillis, au moins qu'on s'en occupe pour éviter les drames. Voilà,
mais François Pupponi rappelait à raison malgré tout qu'il y a des gens de gauche, puisque vous disiez Manuel Valls, d'autres, il y a une gauche républicaine, il y a le printemps républicain, qui sont capables de voir ces enjeux-là. Et il disait, mais après nous avons quitté la gauche. Et je lui demandais juste, est-ce vous qui avait quitté la gauche ou la gauche
que je faire la deuxième moi je voulais juste revenir, Julien, sur ce que nous a dit le père de Matisse, que je trouve assez touchant dans la famille.
Évidemment,
de Matisse, c'est que donc son père, en fait, on trouve assez facilement toute une littérature d'articles sur sa carrière de restaurateur, qui est passionné de la gastronomie depuis qu'il a 4 ans, qui a ouvert un restaurant gastronomique
le père
assez, oui, assez réputé à Châteauroux, qui est d'ailleurs connu par toute la population, et qui travaille aussi avec sa femme, qu'il a suivi dans toutes ses aventures culinaires, et son fils de 15 ans, qui était en CAP justement pour apprendre à être chef. Son père, qu'il avait, enfin, on sentait que c'est une vocation familiale, son père qui l'a encouragé. Il y avait notamment ce post sur Facebook. On voit le père qui dit dépêche-toi, je me fais vieux, j'ai besoin que tu viennes à mes côtés. Et on sentait qu'il y avait ça dans cette famille qui était très fort, qui faisait aussi que cette famille était connue à Châteauroux. Pour du positif.
Et comme dans toutes ces affaires, il y a évidemment le drame de la mort de cet enfant, et puis il y a les dommages collatéraux et toutes ces vies autour de lui qui sont également perdues.
Moi, je voudrais
jamais. Alors Jean-Christophe, qui attend patiemment contrairement à d'autres.
Vous avez vu, moi, je suis bien éduqué.
Bah, c'est vrai, contrairement.
Merci mes parents de m'avoir donné une bonne éducation.
Méfiez-vous, parce qu'à ce compte-là, vous pourriez prendre un coup de couteau.
C'est un sujet sérieux. Allez-y. Non.
Mais après, effectivement, on reçoit plein de personnes qui n'ont pas la même façon de vivre que nous, sauf qu'en fait on a l'impression que c'est à la République de s'organiser. Non mais c'est pas la République, c'est-à-dire que c'est à eux qui viennent, les Français n'ont rien demandé, c'est les personnes qui viennent, c'est à eux de s'adapter à la République. C'est pas la République de s'adapter aux personnes qui viennent pas.
Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la République?
Ah mais parce qu'il faut aussi
connaissent quoi de la République,
peut-être aussi les sensibiliser quand
c'est la République qui doit s'en charger.
Ils connaissent quoi de la République?
Les associations leur donnent que leurs droits, jamais leurs devoirs. Eh bien c'est aussi la République de donner les droits et les devoirs et dire comment ça doit marcher. Et après on y et en fait après il y a aussi un gros problème, c'est enfin une solution, c'est comme on fait les Américains, c'est les opérations ceasefire, ils appellent ça, c'est le feu. Voilà. Et donc, en fait, ils identifient une petite partie de la population à risque, qui est problématique, parce qu'on parle toujours de 3% de mineurs qui sont très investis dans la délinquance, et c'est cela qu'il faut traiter. Quand on veut faire, par exemple, des couvre-feux pour les mineurs de 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, mais mes enfants, moi, ils sont bien éduqués, ils vont pas aller dans la rue tout casser, et donc pourquoi est-ce qu'eux, ils seraient pénalisés au nom d'une petite minorité qui fout le bazar? Voilà. Oui. Donc, c'est ça aussi là. On va punir toute la société française pour une minorité de délinquants.
Non, mais une fois qu'ils sont repérés,
eh bien, c'est là qu'on doit intervenir.
Mais le problème,
c'est la publicité.
On les repère.
Et là,
il n'y a plus personne qui les prend en charge.
Vous savez, c'est la publicité avec Colgate. Quand les caries sont là, c'est là qu'on attaque. Il faut traiter le mal. Il faut y aller.
Ce qui est intéressant quand même dans ce drame, on voit un gamin qui a des réflexes issus de sociétés tribales. C'est que le premier système de défense dans cette histoire, c'est qu'il dit j'ai été victime d'insultes racistes. Alors, j'ai envie de dire, pour ce point-là, il est bien intégré parce qu'il a intégré le discours victimaire ambiant. Or, je suis désolé, j'ai du mal à croire qu'il ait été victime d'insultes racistes. C'est pas la première agression au couteau qu'il commet. On a vu le témoignage du père. Donc c'est intéressant aussi, c'est que face à une famille totalement désintégrée, ils ont intégré la petite musique victimaire. Alors, il faut les prendre en charge. Ils sont victimes de racisme.
Il y a cette question revient à travers cette terrible affaire, et puis la question de la justice des mineurs évoquée aujourd'hui par notre consultant Georges Fenech. Écoutez-le.
Plus d'incarcération pour les mineurs, c'est clair. C'est une volonté de ne jamais placer un mineur en détention. On a supprimé les courtes peines, on a scindé le procès pénal des mineurs entre le jugement de culpabilité et 9 mois plus tard, le jugement de condamnation. Donc vous avez un jeune qui commet des agressions violentes avec armes qu'on relâche aussitôt. Alors il faut évidemment revoir la question d'excuses atténuantes de minorité.
Oui.
Il faut abaisser, me semble-t-il, la majorité pénale à 15 ans. Aujourd'hui, il faut des comparutions immédiates et il faut des courtes peines et des sanctions immédiates. C'est la seule chose que comprennent certains délinquants.
Jean-Christophe Couvier, en fait, on a désarmé la lutte contre la délinquance, tout simplement. C'est une responsabilité politique avant d'être judiciaire, vous diriez?
En fait, c'est une idéologie surtout. C'est-à-dire qu'on estime qu'un enfant, c'est un adulte qui va grandir, il faut le considérer comme tel. On a supprimé les punitions, on fait des punitions, on dit que là, c'est très effectif parce qu'on a changé la loi. Et donc, quand on sort les chiffres, on a l'impression que c'est génial, alors qu'en fait, on voit que ça marche pas. Mais quand on écoute toujours les spécialistes, ils nous disent « Mais regardez, c'est super, on a raccourci en 9 mois maximum, ça y est, on a puni. » Et je suis désolé, mais quand vous punissez vos enfants, vous les punissez dans l'instant. Vous les punissez pas 3 jours, 4 jours, 5 jours après. Sinon, ils comprennent même plus le sens de la peine. Or, aujourd'hui, on a enlevé le sens de la peine. On avait demandé, à un moment donné, l'observatoire de la réponse pénale. Parce qu'on nous sort des chiffres sur la réponse pénale. Mais on connaît pas la ventilation de la réponse pénale. Un classement sans suite, c'est une réponse pénale. Et donc, on nous sort ces chiffres-là. Depuis 2022, soi-disant, victoire, on avait eu cet observatoire. J'ai entendu des syndicats policiers d'ailleurs se gargariser que grâce à eux, ils avaient eu... Mais aujourd'hui, on en est où ? On l'a pas. Tout est caché, tout est mis sous le tapis. On n'a pas l'observatoire de la délinquance non plus. Depuis 2022, ça a été supprimé. Donc en fait, on fait de la politique au doigt mouillé et la politique judiciaire au doigt mouillé.
Les chiffres ils datent de 2017.
Et les chiffres. Alors on a des chiffres en interne police. C'est quand même incroyable. Heureusement,
Vous avez des chiffres internes.
Mais oui, mais bien sûr. Mais
nous, on a 120 attaques au couteau par jour.
Alors ça, c'était les chiffres de 2017. Ça, c'était les chiffres effectivement.
Quels sont les chiffres en 2020 ?
Ça, on l'a pas à ce niveau de finesse. En revanche, on commence à avoir une identité type. 63% des auteurs sont connus des services de police. On sait que... je regarde des trucs, mais...
On ne peut plus quantifier les attaques à l'arme blanche.
C'est la police judiciaire qui fait un auteur type. Et on apprend effectivement des choses. Il y a 27%, par exemple, des étrangers qui sont auteurs de coups de couteau et sur d'autres étrangers aussi. Donc ça représente presque un auteur de coups de couteau sur trois est un étranger. Déjà, ça donne aussi une certaine...
Il est temps de rendre l'antenne, Jean-Sébastien, je vous fais confiance.
Photographie en temps réel.
Oui, mais je voulais juste, c'est l'heure de rendre l'antenne. Je pense que quand on parle de justice des mineurs, on prend le problème quasiment à l'envers. Le sujet, c'est pas tant les mineurs, parce qu'on protège bien les mineurs contre les agressions sexuelles, parce qu'on considère qu'ils ne savent pas à quoi ils consentent. Donc moi, je pense qu'un mineur, ça n'est pas un adulte. Et le problème, c'est que la société dans son ensemble n'est pas adulte. Le problème, c'est la société dans son ensemble qui a été dans le renoncement vis-à-vis de ses responsabilités, justement, vis-à-vis des mineurs. Donc regardons, encore une fois, j'y reviens, notamment les responsabilité
c'est terminé.
Des politiques et des magistrats.
Je suis désolé de vous couper, Jean-Sébastien, mais j'ai une grosse pression dans l'oreillette. Il faut absolument rendre l'antenne. Merci à tous les six. En tout cas, ce sont des conversations, évidemment, qu'on pourra avoir de nouveau dans nos prochaines émissions tout au long de la semaine. Martin Mazur, Céline Génaud, Coralie Deleplace ont préparé cette émission. Je les en remercie. Merci de nous suivre. L'édition de la nuit avec Mathieu Devez dans un instant. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.